Radio de la Paix, il est 12h. Le journal de midi, Jean-Mélène Betty.
Bonjour à tous, c'est l'heure du journal sur votre radio au sommaire de cette édition. 36 milliards de francs CFA, c'est le budget du ministère d'État, ministère de la fonction publique, adopté à l'unanimité par les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Du 22 au 26 novembre 2023, Abidjan sera aux couleurs de la qualité Made in Côte d'Ivoire lors de la deuxième édition de la foire Made in Côte d'Ivoire FOMSI 2023. Les détails dans ce 12h. Dans l'actualité internationale, guerre Israël-Hamas, l'Iran rejette une déclaration du G7 appelant Téhéran à cesser de soutenir le Hamas palestinien et de prendre des mesures qui déstabilisent le Moyen-Orient. Et puis le juriste et politologue ivoirien Geoffroy-Julien Kouao interviendra sur la situation au PDCI-RDA qui prépare son 8e congrès extraordinaire électif alors que l'unité, voire la survie du parti est en jeu. Ce sera avec l'invité de la rédaction avec Aoussi Potin. Et puis en toute fin d'édition, vous aurez la revue de presse des journaux de ce jour avec Didier Blé. Voici pour l'essentiel. Comme annoncé dans les titres, le projet de budget du ministère d'État, ministère de la fonction publique, qui est de 36 milliards, a été adopté à l'unanimité des députés membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. C'était ce mercredi 8 novembre 2023. À l'hémicycle, les députés n'ont pas manqué de féliciter Anne Ouloto pour le travail qu'elle a bas au niveau de son département ministériel. Anne Ouloto, ministre d'État, ministre de la fonction publique, s'est adressé à la presse après l'adoption de son budget.
Je voudrais très sincèrement remercier le président de la Commission des affaires économiques et financières et l'ensemble des membres de cette commission pour la qualité des échanges que nous avons eus. Je suis particulièrement heureuse parce que ces échanges m'ont donné l'occasion de partager avec eux la vision du gouvernement en matière de gestion de cette fonction publique ainsi que de la modernisation de notre administration. Nous avons également parcouru l'ensemble de nos difficultés dans le cadre de la gestion des ressources humaines de l'État. Nous avons partagé également nos difficultés au niveau de la gouvernance et des défis. Nous avons parlé des défis que nous avons à relever. Je suis particulièrement heureuse parce que j'ai vu dans la qualité des échanges que nous avons eus comment nos députés sont sensibles aux actions qui sont menées chaque jour, combien nos députés sont sensibles aux préoccupations de nos populations. Mais je voudrais également saluer le bon accueil qui a été fait des mesures prises par le gouvernement, des réformes en cours et de nos ambitions à améliorer le cadre de vie, le cadre de travail des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, à faire en sorte que nous ayons une administration publique moderne et performante. Je ne suis donc pas surprise que les députés de cette commission aient à l'unanimité choisi d'accompagner le gouvernement dans son ambition. Et je suis fier de notre Assemblée nationale.
À l'instant, la ministre d'État, ministre de la fonction publique, interrogée par Junior Cardin. Parlons d'insertion des jeunes. Plus d'un millier de jeunes filles et de garçons bénéficient à ce jour du programme Jeunes du gouvernement ivoirien. Programme initié dans le cadre de l'année de la jeunesse et qui s'étend sur 3 ans, à savoir de 2023 à 2025. Le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique en a fait un bilan partiel ce mercredi 8 novembre 2023 à Yamoussoukro. C'était à la faveur d'une session plénière d'adoption du Sénat ivoirien d'un projet de loi d'orientation relatif à la jeunesse. Le ministre Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, dans des propos recueillis par Émile Yao.
Pour cette année, vous avez déjà près de 309 000 jeunes qui ont été impactés dans les programmes de formation, d'insertion professionnelle, d'emploi, de stage et autres. Vous avez un peu plus de 421 000 jeunes qui ont pu accéder au programme de permis de conduire. Vous avez 111 000 jeunes qui ont bénéficié donc de bourses et de secours financiers, que ce soit en Côte d'Ivoire et hors de la Côte d'Ivoire. Près de 4 millions de jeunes sensibilisés contre certains fléaux, l'alcoolisme, la drogue, etc. L'Agora d'Abobo qui a été livrée. L'agora de Giglo, de Touba, de Dimokro en cours de construction, le centre de service civique de Boaké qui a été construit et achevé, celui de Daloa, d'Adzopé et de Korogo en cours de construction, les piscines olympiques de Bingerville totalement innovée, d'autres piscines olympiques en cours de construction. D'ailleurs, pendant ce mois de novembre, nous allons faire un bilan public sur toutes ces initiatives, mais surtout en mettant en évidence ces jeunes qui ont été bénéficiaires. Donc, l'année 2023 est certes l'année de la jeunesse, mais le programme qui a été adopté par le gouvernement au mois de mars est sur 3 ans, 2023-2025. Donc, cette année, c'est l'année de l'amorce, mais avec déjà des résultats probants obtenus. Nous passons en vitesse supérieure dès l'année prochaine. Et je voulais profiter de cette tribune pour dire aux jeunes, ceux qui sont encore en attente de perspective, que le programme jeunes du gouvernement, c'est 2023-2025, avec pour objectif d'impacter 1 500 000 jeunes à l'horizon 2025.
Vous écoutiez à l'instant le ministre Mamadou Touré au micro de notre correspondant sur place. Et restons toujours avec la jeunesse qui constitue l'une des priorités de la fondation politique allemande Friedrich Naumann, qui compte accentuer ses actions autour de 6 nouveaux objectifs spécifiques que sont notamment la sécurité, la migration, le genre, le développement durable et le changement climatique. C'est ce qu'a fait savoir sa directrice Afrique de l'Ouest et représentante pays en Côte d'Ivoire lors d'une conférence de presse qu'elle a tenue le mardi 7 novembre 2023 à Abidjan, Cocody Danga, suivant le compte rendu de Jean-Claude Marbella.
Après avoir salué leur bonne collaboration avec la fondation Bakary Diaby de la CADA, la coordination africaine des droits de l'homme et des armées a mis l'accent sur les défis à relever, non sans faire des suggestions.
Les élections de 2025 pour nous constituent un défi majeur en ce qui concerne la sécurisation du processus électoral, mais aussi la formation des hommes pour la sécurisation de ce processus, pour la stabilité, pour la lutte contre le terrorisme et également pour la promotion du genre au sein des forces armées. Et nous espérons être accompagnés par vous.
Yapi Léonce Adon, le directeur chargé d'études et perspectives au CNDHCI, en a fait de même.
Aujourd'hui, quand vous discutez avec les hommes politiques, tout le monde se prépare pour 2025. Or, le malheur en Côte d'Ivoire, c'est qu'on utilise les jeunes comme bras armés. Et donc, pour nous, il est nécessaire que, à partir de 2024, que la formation soit accentuée sur la jeunesse.
Et la directrice Afrique de l'Ouest de la Fondation Friedrich Naumann, qui dit s'inscrire dans la continuité de ses prédécesseurs, a tenu à rassurer les partenaires nationaux en ces termes. Alexandra Elte.
À mon avis, une des clés pour rendre la région plus sûre, c'est justement d'adresser le problème de la jeunesse, du manque d'éducation, du manque de perspective, une des clés délaissées jusqu'à présent.
Installée en Côte d'Ivoire depuis 1989, la Fondation Friedrich Naumann travaille sur les principaux thèmes que sont la politique, les droits de l'homme et l'économie en Côte d'Ivoire.
Nous l'annoncions dans les titres, la qualité made in Côte d'Ivoire au cœur d'un forum à Abidjan du 22 au 26 novembre 2023. Il s'agit de la deuxième édition de la foire made in Côte d'Ivoire FOMC 2023, une plateforme pour la promotion de la production, la commercialisation et la consommation des produits fabriqués en Côte d'Ivoire. Aimé Coisan, par ailleurs coordonnateur général de la FOMC, était l'hôte de la tribune d'échange et d'information Tout savoir sur du Centre d'information et de la communication gouvernementale CICG qui a traité la thématique promotion du Made in Côte d'Ivoire. Les détails avec Mata Touré.
Cette seconde édition de la FOMC s'inscrit dans le cadre de la promotion du secteur privé en vue de son développement aussi bien au plan national qu'à l'international. Cet événement revêt une importance pour l'économie ivoirienne parce qu'elle vise à promouvoir les produits fabriqués ou obtenus en Côte d'Ivoire. Les produits manufacturés permettent aujourd'hui au pays de satisfaire les besoins de la classe moyenne émergente estimée à 30% et d'exporter le reste à hauteur de 8,8% selon la Banque mondiale. Aimé Coisan est coordonnateur général de la FOMC.
Dans tous les secteurs d'activité qui effectivement fabriquent ou transforment les produits issus donc du terroir local, que ce soit donc dans l'artisanat, que ce soit dans l'industrie manufacturière, tout ce qui est le produit pharmaceutique, toutes ces entreprises-là sont éligibles au Made in Côte d'Ivoire. Ils sont éligibles à la foire du Made in Côte d'Ivoire et nous leur ouvrons grandes les portes. C'est pour cela que depuis 6 mois, le 15 mai, que nous avons procédé au lancement officiel de la foire du Made in Côte d'Ivoire, je peux vous assurer que nous nous sommes adressés à l'ensemble du portefeuille des entreprises installées en Côte d'Ivoire.
La tenue de ce rendez-vous d'affaires s'inscrit dans le prolongement de la politique industrielle élaborée par le gouvernement de Côte d'Ivoire au sortir de la crise et dont l'objectif est d'accroître de manière significative la contribution du secteur industriel à la création de richesses et d'emplois décents et durables.
D'Abidjan, rendons-nous à Divo et parlons des sécurités routières où, à l'occasion de la journée médiatique de la semaine de la sécurité routière tenue ce mercredi 8 novembre, l'association des auto-écoles du Lodjibois a appelé l'État à imposer le permis de conduire aux conducteurs de tricycles majoritairement composés de mineurs. Ils provoquent des accidents par méconnaissance du code de la route. En ligne de Divo, notre correspondant régional Abel César Cassin pour plus
de précisions. Au cours de cette 10e sensibilisation qui s'est déroulée à l'immense carrefour de la préfecture de Divo, dont les feux de signalisation ne fonctionnent plus, le contrôle est porté sur le port du casque, de la ceinture de sécurité sur tout le transport, de passagers en surnombre. Suivant la mise en garde du secrétaire général de préfecture de Divo, Gay Afoué-Jeannette, à un transporteur.
Vous n'êtes pas en règle, vous êtes en surnombre. Et puis il y a le camion, mais on cherche à vous mettre en règle. Il faut le verbaliser.
Le directeur départemental des transports de Divo, Jean-Yves Messier, ne se montre pas découragé.
Avec les 14 105 personnes sensibilisées à ce jour, on devrait avoir un impact vraiment grand sur la population. Mais c'est lent. Et c'est lent parce que les disciplines, les civismes sont très enracinés. Je dirais que ça va prendre un élan dans l'avenir, mais ça ne décourage pas.
La gérante de l'association des auto-écoles du Lodjibois, Bernadette Kongoza, fait une observation de taille sur les conducteurs de tricycles.
Il y a beaucoup de mineurs qui sont sur les tricycles. Ils n'ont pas de permis de conduire. La conséquence est que les accidents sont dramatiques. Les accidents sont mortels sur les tricycles. Vraiment que l'État nous aide à ce que vous conduisez un tricycle. Les gens aient le permis de conduire.
À noter que la direction départementale des transports de Divo ne dispose pas de véhicules pour étendre la sensibilisation à toutes les localités de Lodjibois sous sa compétence. De Divo, Abel César Cassin, Radio de la Paix.
Restons toujours dans le même sujet et cette fois-ci, on part à Mans où, à l'occasion de la 10e édition de la semaine de la sécurité routière, les autorités en charge du transport ont multiplié les actions de sensibilisation en collaboration avec les forces de défense et de sécurité de la dite ville. Les détails avec Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Tonkpi.
Les responsables étatiques du transport de Mans et les forces de sécurité que sont la police et la gendarmerie ont investi les rues de la dite ville depuis des jours. Les raisons avec le directeur départemental des transports de Mans, Djebi Irie-Wilson.
Nous nous déployons, la police, la gendarmerie et nous, pour procéder à la sensibilisation. Il est question de respecter le code de la route. Il faut respecter les usagers vulnérables, c'est-à-dire les piétons, les personnes âgées, ceux qui sont sur les motos. Et demander aussi à ces derniers-là de porter le casque. Nos chauffeurs, il faut qu'ils prennent la ceinture, faire régulièrement les entretiens des véhicules, avoir les documents afférents à vos véhicules, le permis de conduire, renouveler les cartes de transport, aller faire la visite technique, c'est extrêmement important.
La présence également, l'un des plus proches collaborateurs mandatés du président de la République est aussi observée sur le terrain.
La Côte d'Ivoire perd beaucoup de ses enfants dans les accidents de la circulation. On voudrait que vous soyez les porte-parole de tous les transporteurs, de faire en sorte qu'on puisse connaître une réduction du nombre d'accidents à Mans.
Une initiative saluée par les transporteurs Bamba Karim, chef des gares centrales de Mans.
Prenons acte, nous serons ambassadeurs pour auprès des conducteurs et des transporteurs pour que nous gagnions au moins d'accidents dans la région de Tujimontagne.
Les statistiques de l'incivisme dans le district autonome des montagnes se chiffrent comme suit. 106 604 usagers sensibilisés, 11 704 conducteurs verbalisés, 904 véhicules mis en fouillère, 84 accidents qui ont causé malheureusement 276 blessés et 35 personnes tué. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
On prend la direction d'Odiéné où Kone Boakari, directeur régional des transports pour les régions du Kabadougou et du Folon, a profité de cette 10e semaine de la sécurité routière pour inviter les chauffeurs de taxi-moto d'Odiéné à incarner l'esprit du civisme en cette veille de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Il a invité les taxi-moto à se préparer à porter les maillots pour mieux servir les nombreux sportifs qui viendront assister à la CAN. En ligne d'Odiéné, Bakary Touré Labas, notre correspondant dans le district autonome du Dinguélé.
Faire de la CAN 2023 la vitrine de la Côte d'Ivoire à l'étranger, telle est la volonté affichée par le directeur régional des transports des régions du Kabadougou-Folon au cours de la présente semaine nationale de sécurité routière. Kone Boakari.
Nous sommes la plus grande ville en venant de la Guinée, en venant du Mali aujourd'hui, et la CAN aura lieu à Korogo. C'est d'abord faire en sorte que les gens qui font le taxi, communément ces taxis moto, qu'ils aient d'abord le permis de conduire, qu'ils connaissent le code de la route, qu'ils ne viennent pas tuer des étrangers que nous allons avoir ici. La Côte d'Ivoire a une très bonne image à l'extérieur. Il faudrait que nous puissions préserver cette image-là.
Et cette opération de charme, si chère au premier responsable des transports dans la localité, vient d'entrer depuis peu dans sa phase active au dire de Derasouba Sekou, président des taxis moto.
L'organisation même a déjà commencé avec le directeur des transports. Le permis, il a négocié avec des auto-écoles pour nous faire le permis promo 85 000. Parce que tu ne peux pas être ivre pour conduire un étranger, c'est pour aller salir le nom de ton pays. Cette année, dans cette canne, nous voulons être des exemples.
Cette exemplarité déjà est en train de se faire sentir, d'où se satisfait-il.
Il faut dire que nous sentons une nette amélioration dans le taux d'accident dans le Dengue. Nous sentons aussi une amélioration de comportement.
Quand on sait que la ville de Dengue ne compte que seulement 3 taxis, le renforcement du parc auto d'alors s'impose pour une canne réussie. Bakary Touré Labas, au Dengue, Radio de la Paix.
Hors du continent, l'Iran a rejeté ce jeudi une déclaration du G7 appelant Téhéran à cesser de soutenir le Hamas palestinien et de prendre des mesures qui déstabilisent le Moyen-Orient. Cet appel survient alors que l'Israël bombarde sans relâche. Depuis plus d'un mois, la bande de Gaza assiégée affirmant vouloir anéantir le Hamas en représailles à l'attaque inédite menée le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien. Les chefs de la diplomatie du G7 réunis à Tokyo ont exhorté l'Iran mercredi à ne pas soutenir le Hamas et le Hezbollah libanais et à ne rien faire qui puisse déstabiliser le Moyen-Orient. Jeudi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a condamné fermement cette déclaration. Il a affirmé que l'Iran avait déployé des efforts interrompus pour mettre fin aux attaques militaires du régime israélien contre les citoyens sans défense du territoire palestinien de la bande de Gaza que contrôle le Hamas. Restons toujours dans cette partie du globe où, ce jeudi, un responsable militaire israélien affirme qu'il n'y a pas de crise humanitaire dans la bande de Gaza. Il affirme reconnaître les nombreuses difficultés auxquelles font face les civils dans le territoire palestinien en proie à la guerre entre Israël et le Hamas. Israël facilite l'acheminement de l'aide humanitaire, a affirmé le colonel Moshe Tetro, responsable pour Gaza de l'organe du ministère israélien de la Défense supervisant les activités civiles dans les territoires palestiniens. Nous savons que la situation civile dans la bande de Gaza n'est pas facile, a-t-il ajouté. Selon l'ONU, 1,5 million de personnes sur les 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza ont été déplacées par la guerre. Et puis, dernière étape de ce journal, l'invité de la rédaction à la suite du décès de son président Henri Conan Bédier le 1er août dernier, le PDCI s'apprête à organiser le 16 décembre prochain son 8e congrès extraordinaire électif. Un congrès de tous les dangers selon de nombreux observateurs qui craignent pour la cohésion si ce n'est la survie du parti septagénaire. Des craintes certes légitimes mais qui ne pourraient prospérer selon l'analyste et politologue ivoirien Geoffroy Julien Kouao. Pour celui-ci, le PDCI RDA doit pouvoir aborder ce virage électoral avec beaucoup de lucidité car pouvant se positionner comme le seul parti qui constitue une alternative politique crédible quant à une possible alternance au sommet de l'État en 2025. Geoffroy Julien Kouao est notre invité de la rédaction. Il est interrogé par Aoussi Potin.
Geoffroy Julien Kouao, bonjour.
Bonjour, monsieur Aoussi Potin.
Le PDCI RDA, le plus vieux parti politique sur l'échiquier ivoirien, s'apprête à organiser son 8e congrès extraordinaire prévu pour le 16 décembre prochain. Un congrès très attendu, pas seulement par les militants du dit parti, mais aussi par tous les observateurs de la scène politique ivoirienne. Et pour cause, certains craignent une implosion du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Partagez-vous cette crainte?
Non, je ne pense pas que l'élection du président du PDCI participera à l'implosion du parti. Bien au contraire, une élection est une occasion pour les uns et les autres de se mesurer électoralement, voir leurs forces et faiblesses. Et en principe, le PDCI étant un parti démocratique, ces élections devraient être concurrentielles. Et une fois que les résultats sont connus, le vainqueur préside et évidemment le vaincu devrait en principe se rallier à lui. Parce que l'objectif commun, je pense bien, au niveau du PDCI, c'est le retour au pouvoir d'État.
Alors vous le dites, il ne faut pas craindre d'implosion du PDCI, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, au niveau des candidatures déclarées, l'on sent que la bataille est lancée, quoique feutrée, avec quelques étincelles ici et là. Est-ce que à ce niveau, déjà, il ne faut pas craindre que l'unité du PDCI-DA soit entachée, voire mise à l'épreuve?
Non, c'est le propre de toute élection concurrentielle, libérale et démocratique. Toute élection plurielle suppose des candidatures plurielles et chaque candidat vient avec ses argumentations. Et il est évident qu'il va avoir des pics venant de part et d'autre, mais la culture démocratique des candidats devait leur permettre de comprendre l'enjeu qui, je le répète, est la reconquête du pouvoir d'État perdu en 1999.
Toujours est-il aussi qu'aujourd'hui, l'on se rend compte qu'il y a ceux qui mettent en avant les tests qui régissent le PDCI-RDA quant à l'élection du président. Et puis d'un autre côté, il y a ceux qui souhaitent qu'il y ait un consensus autour du nom d'un candidat unique. Est-ce que cette problématique qui se pose ne peut pas aussi être difficile à résoudre par le PDCI? Comment solutionner cette problématique selon vous?
Je pense que le consensus n'est pas démocratique. Le consensus s'inscrit dans la pensée unique. Il faut écarter cette hypothèse dans le cadre d'un parti qui se veut démocratique. Toute élection, que ce soit dans le cadre d'un parti politique ou dans le cadre étatique, est avant tout concurrentielle. Ça permet de voir les forces et faiblesses des différentes tendances au niveau du parti. Il faut éviter le consensus qui n'a rien de démocratique. Le consensus est propre aux démocraties populaires où il y a la dictature de la majorité. Parce qu'en fait, le consensus signifie l'unanimité. Or, dans une démocratie, on ne cherche pas l'unanimité, on cherche à avoir la majorité. Deuxième volet de votre question, il y a les tests, mais il y a aussi le contest. Je pense qu'il faudrait, dans le cadre du PDCI, harmoniser le test et le contest et rendre ces élections totalement libérales, permettant à toutes les personnalités qui le souhaiteraient de pouvoir se présenter. Je pense que dans le cadre d'un parti démocratique, la seule conditionnalité pour être candidat à la présidence de ce parti devrait être, à mon avis, le fait d'appartenir au parti et d'avoir sa carte de parti. Il faut éviter des conditionnalités moins démocratiques, avoir 10 ans au conseil, au bureau politique, il faut avoir ceci, cela. On parle même d'un cautionnement, on veut installer donc la plutocratie, tout ceci n'a pas de sens. Il faut permettre à toutes les intelligences du PDCI, à toutes les personnalités qui le souhaiteraient, de pouvoir se présenter et il appartiendrait aux militants de les départager.
Si on vous suit bien, donc vous parlez tantôt de considérer le test et le contest, est-ce à dire que si l'on passe au peigne fin certaines conditions à remplir pour être candidat au poste de président du PDCI, savoir entre autres être ivoirien, être militant, avoir 40 ans au moins, avoir été au bureau politique pendant au moins 10 ans, payer une caution de 20 millions pour l'organisation du congrès, caution non remboursable, pour vous, certaines de ces conditions devraient être élaguées, supprimées?
Mais évidemment, regardez, il faut avoir 40 ans pour diriger le PDCI, ça dépend à quel critère. Pour être président de la République, par exemple, il faut avoir 35 ans au moins. Donc on pourrait comprendre que le PDCI est pour critère d'éligibilité à sa tête, par exemple, 35 ans pour que le candidat puisse être, en cas de besoin, le candidat du parti pour la présidentielle. Et donc il faut éviter toute conditionnalité exclusive. Il faut des élections inclusives permettant à toutes les intelligences d'y participer. Je pense que le PDCI se doit aujourd'hui de comprendre une chose, c'est le seul parti qui constitue une alternative politique crédible quant à une possible alternance au sommet de l'État. Il doit donc aborder ce virage électoral avec beaucoup de lucidité et comprendre que la démocratie suppose un jeu concurrentiel et la participation de tous. Que le meilleur gagne et que le meilleur se donne les moyens avec ce bel instrument qu'est ce parti politique de reconquérir le pouvoir d'État.
Geoffroy et Julien Kouaou, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'est la fin de cette édition, mais avant le rappel des titres. 36 milliards de francs CFA, c'est le budget du ministère d'État, ministère de la fonction publique, adopté à l'unanimité par les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Et puis du 22 au 26 novembre 2023, Abidjan sera aux couleurs de la qualité Made in Côte d'Ivoire lors de la deuxième édition du foire, de la foire du Made in Côte d'Ivoire FOMSI 2023. Dans l'actualité internationale, Israël, Hamas, l'Iran a rejeté une déclaration du G7 l'appelant à cesser de soutenir le Hamas palestinien et de mettre et de prendre des mesures qui déstabilisent le Moyen-Orient. Et puis le juriste politologue ivoirien Geoffroy Julien Kouaou était l'invité d'Aoussi Potin. Il est intervenu sur la situation au PDCI qui prépare son 8e congrès extraordinaire électif, une étape décisive de la vie politique de ce parti. Merci à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction 15h, mais avant la revue de la presse avec Didier Blé.
Bonjour à tous et bienvenue. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire organise son 8e congrès extraordinaire le 16 décembre 2023. Ce rendez-vous suscite beaucoup de passion. À l'issue de cette rencontre, on connaîtra le nouveau président du parti. Après la disparition